Montréal. Énergie renouvelable,
désertification,
santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains,
questions d'éthique,
respect de la
politique internationale, biodiversité,
pollution, paix.
Parce que pour faire avancer les idées, il faut les brasser. D'abord encore, faut-il en avoir? Alors question de vous en donner un peu. Cette semaine à Delirium Environnemental, en revue de presse, c'est Nicolas Milo et Patrick Bonin qui partagent leur point de vue sur l'environnement. On va parler d'OGM, de transport, de changement climatique et de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. En deuxième partie d'émission, comme vous le savez peut-être, Delirium tire à sa fin. On a donc eu envie de partager certains de nos états d'âme environnementaux. C'est pourquoi nous vous proposons un authentique Delirium environnemental, une table ronde rassemblant les trois compères ici présents et dénommés Patrick Bonin, Nicolas Milo et moi-même, Sofiane Legendre. Finalement, Delirium environnemental va se terminer comme d'habitude par nos classiques coup de cœur, coup de masse et au calendrier cette semaine.
Quel timing!
Mais il était cœur!
C'était impressionnant!
Hein?
On commence à comprendre. Sofiane Legendre au micro, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'animation, accompagné cette semaine, comme je vous le disais, mais je le répète encore, Patrick Bonin et Nicolas Milo, messieurs, j'espère que vous allez bien.
Tellement bien!
Parlons d'un printemps, parlons d'une semaine qui va être porteuse du jour de la Terre. Le saviez-vous? Une journée par année, c'est le jour de la Terre sur la planète Terre.
Juste une journée.
Juste une journée, et oui, petite déception, et cette journée-là sera le 22 avril. Écoutez, messieurs, dames qui nous écoutez, c'est pas une raison pour pas faire attention et se sentir responsable, hein, de son environnement, le reste des autres journées de l'année.
De l'année.
Mais le 22 avril, c'est vraiment donc la journée internationale ou la journée tout court de la Terre 2005, et le thème cette année, c'est bien original, réinventer la roue. Avant de revenir au thème, réinventer la roue, parce que ça s'attaque en quelque sorte à nos chaînes de développement du transport, mais également ce qu'on est en train de faire à notre beau climat qui nous a permis de nous développer à ce beau point de l'évolution que nous connaissons aujourd'hui.
Et de perdre nos poils.
Entre autres choses.
En tant que mammifère.
Penses-tu?
Ben, je crois qu'on en a moins qu'avant.
Bon, on pourrait peut-être mobiliser les esthéticiens, ils vont perdre tellement d'argent avec cette histoire-là. C'était mon idée. Le jour de la Terre, vraiment, c'est une grosse journée sans faire. C'est 500 millions de personnes à travers 184 pays qui passent à l'action chaque année dans le cadre du jour de la Terre. Je ne sais pas exactement quel type d'action ils prennent, mais moi, je pense que pour cette journée-là, comme ça se produit juste une fois par année, j'ai une proposition officielle à faire à l'ensemble de la planète concernant le jour de la Terre. Moi, je recommande que cette journée-là, surtout s'il y en a qu'une, on se la fasse fériée. On devrait prendre un congé férié, peu importe le jour que ça arrive, si ça arrive le mercredi, c'est bien beau, on prend congé. Et puis, pendant ces journées-là fériées, on devrait prendre action concrètement pour l'environnement. Prendre le temps de planter un arbre sur son terrain, aller chercher un compost, s'intéresser aux matières recyclables et putrescibles.
Eh bien, dans une perspective d'amélioration durable et viable à long terme, je proposerais que cette journée congé se répète à toutes les semaines, en fait, et qu'on tombe tout simplement une semaine de 4 jours.
Oui! Hey, on peut-tu se le dire sans faire? Ça va être un combat sérieux de notre génération. Parce que moi, je pense que ça rend les gens débiles mentales de travailler à ce point dans une société qui n'est pas du tout configurée pour qu'on s'occupe pas de nos familles, des gens.
J'ai l'impression qu'on leur demande de faire attention à l'environnement, puis ils disent hey, « j'ai juste deux journées de congé par semaine, au moins me reposer ».
On prend un char pour aller à la campagne ces deux jours-là.
Certain.
Entre autres choses.
Ou ta grosse sondeuse pour le temps de ton garçon.
C'est vrai, parce que t'as pas le temps de le couper au ciseau.
C'est important.
T'as juste deux jours de congé.
Et voilà.
Trêve de plaisanterie, donc la journée internationale de la Terre. Non, je me répète, la journée de la Terre, le porte-parole encore cette année, c'est M. Jacques Langrand. Pour ceux qui voudraient s'informer plus amplement, il y a quand même des textes très intéressants qui se trouvent sur le site de lejourdelaterre.org, c'est bien simple. Mais ça sera bien sûr sur notre site internet au www.radiodelirium.net. J'en profite pour faire le tour de l'équipe parce que Delirium environnemental, on en parle souvent. Vous en entendez souvent parler, j'imagine, ou en tout cas, si vous voulez nous connaître plus, vous pouvez aller voir notre site internet au www.radiodelirium.net. Vous inscrire également à la cyberlectre, bien qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais quand même, l'expérience en vaut sûrement la peine. Donc, toujours sur le site internet, qui est une conception de notre metteur en onde, régisseur, concepteur web, Étienne Côté-Paluc, merci beaucoup. Delirium environnemental, c'est aussi Hugo Lachapelle, ainsi que Nicolas Méville, qui nous reviendront probablement la semaine prochaine. Un anniversaire qui a marqué la semaine, Patrick Bonin, et toi, ça t'a fait sourire ou crier, on le saura dans pas long. Donc, c'était le premier anniversaire de la mise en place d'une norme d'étiquetage des OGM au Canada.
Quel bel anniversaire! Et pour le souligner d'ailleurs, Greenpeace a sorti un concours pan-canadien. Sortez votre loupe à la maison. Vous êtes tous invités à trouver une étiquette dans un supermarché ou un marché d'alimentation où vous allez voir sur l'étiquette contient des OGM. Parce qu'après un an d'étiquetage volontaire de la part de nos fabricants de nourriture, eh bien, personne n'a été capable de trouver une étiquette marquée contient des OGM au Canada. Et ça, c'est parce qu'au Canada, on a décidé d'avoir une loi, une réglementation qui est volontaire et que si on a plus que 5% de contenu dans l'aliment qui vient ou qui est génétiquement modifié, eh bien on doit le déclarer, mais ça c'est de façon volontaire encore une fois, comparativement bien sûr à l'Europe. L'Europe, la norme est 10 fois plus sévère, c'est à partir de 0,9%, donc c'est environ 10 fois, et évidemment, eux, vous n'avez pas le choix de le déclarer. Donc Greenpeace, en fait c'est beaucoup plus que Greenpeace, c'est une grosse coalition à l'intérieur de laquelle on retrouve entre autres Équitaire, on retrouvait des gens des cégeps, des gens de même la centrale des syndicats du Québec, donc un petit peu partout, et on se demande justement, mais avec 70% ou même plus que 70% de la population qui veut un étiquetage obligatoire, autant au Québec qu'au Canada, mais que se passe-t-il avec nos politiciens? Pourquoi refusent-ils de mettre en place l'étiquetage obligatoire? Est-ce qu'on a quelque chose à nous cacher?
Peut-être
qu'il y a une commandite reliée avec cette histoire d'OGM, eh bien, on va sûrement mettre une commission d'enquête sur pied pour tirer ça au clair, parce que c'est pas clair.
Mais je suis déçue de te décevoir, mais il y a eu une commission d'enquête sur la question, entre autres, de l'étiquetage de la CAPA en 2004, en juin 2004, plus précisément. Et encore une fois, toutes les mémoires et toutes les allocutions qui ont été faites dans le cadre des consultations publiques autour de ce projet, pas du projet seulement, mais de la CAPA en général, allaient dans le sens de l'étiquetage des OGM. Et toujours à ce jour, c'est une farce que cette histoire de normes volontaire.
Voilà la subtilité. Tu as bien dit le mot enquête, et ce n'était pas une enquête, c'était une consultation publique. Donc, oui, les conclusions disaient « Nous devrions aller vers l'étiquetage. » Je vous reviens peut-être après la pause pour voir quelle est maintenant la position du gouvernement du Québec face à cet étiquetage obligatoire.
C'est la revue de presse de Delirium environnemental qui se poursuit. Patrick Bonin, la question de l'étiquetage en Europe, plus particulièrement, on sait que c'est un dossier qui avance, mais c'est vrai, tu nous annonçais juste avant le départ que c'est la position de Charest sur ces questions-là. Donc, qu'est-ce qu'il en pense? Pense-t-il quelque chose?
En fait, c'est sous titre, M. Yvon Vallière, ministre québécois de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation, qui a pris position la semaine passée. Et regardez bien cette position, c'est un petit peu drôle. Donc, pour lui, l'étiquetage obligatoire, c'est pas une chose que j'ai l'intention de ne pas aller de l'avant avec. Donc, une double négation pour dire qu'éventuellement, peut-être, il ne le sait pas. Tout ça pour conclure, finalement, que oui, on a beau avoir justement une consultation publique, c'est tenu au Québec sur l'agriculture, principale recommandation, étiquetage obligatoire des OGM au Québec. On sait que l'Île-du-Prince-Édouard veut simplement bannir les OGM de son territoire. Eh bien, là, au Québec, M. Yvon Vallière, je vous rappelle, ministre de l'Agriculture, Pêcherie, Alimentation, blablabla, nous dit que, écoutez, il faut quand même être prudent. On a l'intention, évidemment, d'aller de l'avant dans le sujet, mais on va attendre une étude d'impact économique qui a été commandée aux chercheurs de l'UQAM, parce que vous savez, au Parti libéral, eh bien, c'est important d'avoir des données économiques. Donc, on n'est pas sorti du bois. Évidemment, il va attendre la prochaine réunion, entre autres, avec les autres provinces pour voir si les autres provinces vont aller de l'avant.
C'est quoi les données économiques qu'il va avoir? Les pertes de revenus pour les compagnies semencières? Parce qu'en fait, c'est les seuls à vraiment faire du profit dans cette histoire-là.
Ah, qui sait? Peut-être on parle également de producteurs. De pesticides. On se souvient qu'il y a beaucoup d'OGM qui sont résistants aux pesticides.
C'est pas mal les mêmes, en tout cas, ils couchent ensemble.
Oui. Eh bien, c'est un dossier à suivre. Pendant ce temps, en Europe, ça faisait un an également,
oui.
Qu'en Europe, on avait l'étiquetage obligatoire, je vous le rappelle, parce qu'avant, c'était un moratoire. Mm-hmm. Donc, on avait tout simplement... On n'acceptait pas les OGM. Et là, maintenant, on est obligé d'étiqueter tout produit avec des OGM en Europe, avec 0,9% de teneur en OGM dans l'aliment. Eh bien, rendez-vous compte que... Ben, je vais partir peut-être avec l'exemple de la France. Greenpeace a des agents, il y en a plus de 2000, on les appelle les détectives en Europe, qui s'amusent à se promener dans les épiceries et à regarder justement s'il y a des produits OGM. Eh bien, en France, on note pas plus que 30 produits contenant des OGM qui sont étiquetés. Et sur la grandeur de l'Europe, on parle de 77 produits. Donc, c'est très peu si on garde en tête que...
C'est probablement tous des produits transformés.
Exactement. Ça, je pourrais pas dire, malheureusement. Mais si on garde en tête qu'il y a plusieurs milliers de produits, donc 77 produits, c'est très peu. Et ce que ça prouve, c'est que les gens ne veulent pas d'OGM, donc les entreprises le savent très bien et ne vont pas mettre sur le marché probablement des produits qui ne se vendront pas.
Je suis pas d'accord avec cette analyse, malheureusement.
Eh bien, parlons-en.
Mais parce qu'entre autres, il faut savoir comment est-ce qu'ils ont fait les tests sur ces produits-là. C'est tous des produits de transformation, à moins que ce soit les OGM qui sont commercialisés à ce jour. Et présentement, il n'y a pas de légumes. Le premier aliment qui est entièrement transgénique qui va être commercialisé s'en vient en Chine. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc, c'est tous des produits de transformation. Puis, je serais curieuse de savoir qui passe le test de l'étiquetage. Mais qui va vérifier chacun des produits? Est-ce que c'est une déclaration des gens qui les
produisent?
C'est la
norme, en fait.
Oui, mais c'est beau d'avoir une norme. Encore faut-il quelqu'un qui a vérifié pour faire un petit crochet pour dire oui, il respecte la norme?
Bon, écoutez, Sofiane, le gendre semble maîtriser très bien le dossier. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un 0,9% à partir duquel vous devez étiqueter et qu'en Europe, bien, il y a simplement 77 produits à travers toute l'Europe, selon Greenpeace, qui ont plus de 2000 inspecteurs, qui ont ces résultats et qui disent qu'ils n'en vendent pas. Le seul problème, évidemment, ils sont pas très contents en Europe parce que ils ont droit de justement de mettre des produits alimentaires. En fait, les animaux ont droit de manger des produits OGM et les animaux se retrouvent sur le marché en ayant mangé des produits OGM. Et là, Greenpeace met en place une grosse campagne de pétition pour rassembler 1 million de signatures justement pour changer cette histoire qu'ils mangent des animaux qui mangent des produits OGM.
Heureusement qu'ils sont là, Greenpeace, dans le dossier des OGM. C'est un des seuls groupes à vraiment documenter et aller chercher des études pour documenter ces questions-là, ces enjeux-là. Merci, grâce à sans Greenpeace, on n'aurait pas eu accès à ces résultats-là. Sans Greenpeace, on n'aurait peut-être pas eu accès non plus à l'information, à savoir que du riz transgénique illégal contamine la chaîne alimentaire en Chine. Mais avant même de parler de la contamination de la chaîne alimentaire, parlons donc justement de ce cas du riz transgénique qui va être sous peu commercialisé en Chine. C'est inquiétant parce que, comme je le disais, pour l'instant, les très grandes cultures d'OGM sont articulées autour des produits comme le maïs, le soya, le canola, donc des produits qu'on va souvent retrouver dans les huiles, à part pour le maïs, mais qu'on va souvent trouver dans les huiles des produits transformés. Il faut savoir que ça va ouvrir tout le marché de l'Asie aux cultures génétiquement modifiées, donc on s'imagine que les compagnies semencières sont mortes de rire. Et puis donc, c'est ça, ça devrait devenir le produit de base de l'alimentation de 1,3 milliard de Chinois, donc un cinquième de l'humanité qui se mettrait à se nourrir d'OGM. Il faut aussi savoir qu'en Chine, là, on ne mange pas du riz une fois par semaine. Hein. C'est matin, midi et soir qu'on s'alimente de riz. Donc, en termes d'impact sur la santé, ça risque d'être un beau grand laboratoire. On s'imagine aussi, je m'excuse, je ne sais pas si vous l'imaginez, mais la plupart des OGM, environ 60% et plus des OGM qui sont commercialisés présentement dans le monde, ont été modifiés pour résister à un herbicide ou un pesticide qui est souvent conçu par les mêmes compagnies semencières. Et c'est exactement ce type-là de riz transgénique qu'on veut mettre sur le marché. C'est le gène BT, donc, en fait, qu'on dit qu'il est déjà présent dans le sol pour...
C'est une bactérie, en fait.
Oui, c'est une bactérie.
Bacillus thuringiensis.
Pour détruire 75% des... Donc ça, c'est comme intégré. Pour eux, ils calculent que c'est comme un pesticide ou un herbicide qui serait intégré dans la plante, qui fait qu'elle résiste aux bébites. Donc, c'est une plante résistante aux bébites.
Genre.
Mais comme tout moyen de résistance, souvent c'est très très bref et la bébite, ben, elle devient plus forte et à un moment donné, elle contourne ce qu'on a ajouté dans la plante et donc ça devient vétuste et là on doit créer un autre, un BT14, 20, 22, 210, 4000. Et bref, ça fait en sorte que nos multinationales continuent de vivre tout le temps.
Continuent, c'est un bon choix de mots. Puis que présentement, si ils utilisent les agriculteurs chinois de riz, donc ils utilisent beaucoup de pesticides. Des vrais pesticides cette fois-ci, parce que 75% des rizières chinoises sont attaquées par des bébites qui s'attaquent à leur riz. Ben, moi, je trouve que c'est particulièrement inquiétant, entre autres, parce que présentement, ça fait beaucoup de gens qui vont s'alimenter d'un produit transgénique sans qu'on connaisse vraiment l'impact sur la santé.
Et l'environnement également.
Quoique l'environnement, de plus en plus, on sait qu'il y a des impacts sur l'environnement. Des cas de contamination puis de dissémination et de pollinisation croisée dans l'environnement, on peut pas dire qu'on comprend pas puis qu'on connaît pas. C'est documenté. Encore la grande étude de laquelle tu nous parlais en Grande-Bretagne sur les cultures GM versus les cultures non-OGM. C'était la plus grande étude, ça avait duré 4 ans. c'est une vraie farce.
Mais ce qui est aussi important de surveiller, c'est, là, on vient de franchir un pont, on s'en va vers l'Asie, vers la Chine, vers des problématiques qui sont tout autres que celles de simplement produire des céréales pour des multinationales qui vont en vendre. Là, on rentre dans la partie des personnes qui en ont besoin pour manger. Donc, c'est la subsistance. Et ce qui est dangereux, c'est de surveiller des groupes comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, qui vont peut-être se tourner vers l'Afrique, vers l'Asie du Sud-Est, parce que des gens ont besoin de nourriture pour survivre, tout simplement. Et où est-ce que ces grands groupes-là, qui, dans une de leurs missions, veulent aider au développement des pays les moins fortunés de la planète, ben, vont faire en sorte qu'il y ait des politiques nationales qui soient, on vous donne de l'argent pour vous aider à faire de la production céréalière, mais vous devrez acheter les semences de nos multinationales qu'on aime bien et que vous devrez, dans le fond, c'est une subvention détournée, c'est du scandale des commandites, mais à l'échelle internationale.
En terminant, revenons à Greenpeace qui ont émis un document, pas un documentaire, mais bien un communiqué cette semaine en date du 13 avril 05, donc 2005. Dans, justement, une grande étude qui a été faite en Chine et qui révèle que, d'après leurs estimations, d'ici l'année prochaine, 13 millions de tonnes de riz vont être contaminées aux OGM sans qu'ils aient été conçus de la sorte au départ, donc vraiment par contamination croisée. Et puis donc, c'est Greenpeace qui a diffusé les résultats d'analyse réalisée sur les semences de riz, disant qu'ils étaient déjà contaminés à ce jour, juste sur la base des essais en champ qui avaient été faits avec le riz transgénique.
Toujours intéressant de savoir que Greenpeace, on peut critiquer parfois leurs études, mais vous pouvez quand même aller sur leur site Internet en passant par notre site Internet, radiodrm.net. Et Greenpeace demande évidemment l'étiquetage obligatoire au Québec, et on s'en rend compte au Québec, le gouvernement y bouge quand la population se mobilise, donc un petit courriel bien envoyé, allez-y fort, radiodrm.net.
Et de retour à Delirium environnemental, toujours en revue de presse, revue de l'actualité. Revenons plus près de chez nous, pas comme si notre assiette n'était pas très très proche de chez nous, sinon dans notre maison. Revenons ici à Montréal même, où est-ce qu'il y a des belles annonces qui ont été faites concernant les pistes cyclables?
Oui, parce qu'on va rentrer dans un bloc transport, mais disons qu'il y a eu bien des nouvelles cette semaine au niveau du transport routier. Mais on va s'égarder pour un peu plus tard. On va prendre une bouffée d'air frais avant de plonger dans l'air un peu plus nauséabond de la 25, de la 30, de la 40 000, de la n'importe quoi d'autoroute au Québec pour vous parler de vélo, parce qu'il y a une annonce hyper intéressante cette semaine de la part de la Ville de Montréal qui, en concert avec Vélo Québec, une ONG qui est vouée, dans le fond, à la promotion du vélo en ville, eh bien, on fait une annonce concernant l'ajout de 20 km de voies cyclables supplémentaires à Montréal, mais au centre-ville. Donc, c'est un mouvement très intéressant. On sait qu'il y a beaucoup de réticence à ouvrir le centre-ville aux pistes cyclables, aux vélos, surtout de la part du milieu économique, des marchands qui disent que, mon Dieu, l'auto, c'est la seule façon d'amener des clients au centre-ville, alors que études de par le monde nous montrent qu'aussitôt qu'on piétonnise une rue, qu'on la rend plus accessible aux moyens les plus modestes pour se déplacer, eh bien, ça crée un achalandage, tout simplement parce que, eh bien, quand on est en auto, on n'a pas le goût d'arrêter. Alors que quand on est papier, c'est juste plus fun de rentrer dans une boutique. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Bref, l'annonce, eh bien, c'est de rajouter 20 km. Des projets qui sont assez audacieux et, ma foi, pour une des rares fois qu'on peut leur dire merci de vous engager là-dedans et essayer maintenant de passer de la parole aux actes. Eh bien, l'administration Tremblay, il va avec des choses quand même très intéressantes. On parle, entre autres, de pistes cyclables sur Maisonneuve, donc entre, je dirais, l'Est, Hochelaga-Maisonneuve et Westmount. Donc, une piste cyclable qui fera en sorte de condamner une des deux voies automobiles sur Maisonneuve, de favoriser donc l'établissement de pistes cyclables qui sont exclusives, donc pas des pistes cyclables où est-ce qu'on doit partager ça avec un 10 roues puis qui pourrait nous trouver dessus n'importe quand.
C'est pas tout à fait exclusif, en fait, c'est entre autres partagé avec les autobus.
Sur Maisonneuve, c'est exclusif. C'est sur René Lévesque qu'on parle du autobus et taxi.
Ça, c'est peurant, hein?
Oui, ça, c'est une autre chose qui est apparente. Partager ça avec un autobus, il va y avoir beaucoup de sensibilisation à faire au niveau des chauffeurs d'autobus, je pense, pour qu'on nous respecte un peu. Mais il y a aussi la rue Wellington, donc plus au sud de la ville. On veut aussi faire en sorte que du canal Lachine, par la rue Peel, on puisse monter jusqu'au centre-ville.
C'est quand ça? Quand est-ce que ça va être prêt?
Eh bien, il y a déjà des travaux qui devraient être faits cette année. Cette année, on parle de deux premiers projets, c'est-à-dire prolonger la piste de la rue Clark, donc celle qui part du coin du marché Jean-Talon, et donc de pouvoir la rendre jusque dans le centre-ville. Et finalement, poursuivre la piste rue Chérier jusqu'à McGill, donc par les rues Milton, là, dans le plateau. Donc ça, c'est les deux premiers projets pour cette année. Pour 2006, eh bien là, on se lance dans les plus gros projets. La piste de Maisonneuve, donc de Berry jusqu'à Westmount. René Lévesque aussi. Donc, on se lance dans quelque chose de, ma foi, intéressant.
Patrick Bonnet semblait avoir quelques critiques à l'endroit du plan.
Eh bien, oui, comme ça arrive souvent, il y a des subtilités comme ça qu'on voit.
Qui sont-elles?
On n'est pas tout à fait certain parce que c'est quand même un plan, c'est passé rapidement, il y a plein de nouvelles, on en a regardé plein d'autres. Mais l'idée est que les annonces sont faites principalement au centre-ville, chose qui, oui, tout à fait louable et félicitations parce qu'on sait que c'est très difficile d'avoir de la place au centre-ville. Mais ma question est, comment on fait pour se rendre au centre-ville à vélo? Moi, ce que j'ai vu dans le plan d'urbanisme qui était proposé jusqu'à maintenant par la ville de Montréal, les pistes cyclables en périphérie du centre-ville, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient rajoutées. Et c'est très problématique de dire, on met des vélos au centre-ville, mais il n'y a pas de pistes autant nord-sud qu'est-ouest qui se promènent un petit peu partout à travers la ville. Et oui, ça coûte cher, mais vous ne me ferez pas croire que ça coûte plus cher que réparer des rues lorsqu'on a justement plein de véhicules automobiles qui passent dessus.
Oh. Ben, critique justifiée, j'imagine.
Ben, du moins, c'est à voir ce qu'ils vont en faire, là, parce qu'il faut qu'on garde en tête aussi qu'on est en année électorale au niveau de la ville de Montréal. Donc, des annonces comme ça, ça paraît bien, mais faut voir la vision d'ensemble. Et encore, souvent, le problème, c'est que on règle pas, on n'a pas de vision d'ensemble sur l'ensemble du territoire, mais bien une petite vision électoraliste, entre autres, qui s'en vient. Mais ça, c'est à chaud comme ça, je vous dirais. Faudrait garder un œil là-dessus.
Ben, on gardera un œil là-dessus. En attendant, une autre bonne nouvelle qui venait avec ce plan-là, en tout cas, moi, qui m'a fait plaisir, c'est qu'on va ajouter des lieux pour pouvoir barrer nos vélos. Parce qu'un problème, quand on vient en vélo au centre-ville, c'est qu'il n'y a jamais de poteaux disponibles pour barrer nos vélos. Ou même qu'on se fait dire qu'on n'a pas le droit, ils mettent des gros tubes, ces bonnes fontaines. Pas les bonnes fontaines.
Oui, mais on peut les barrer pareil, ça marche.
Ah oui, ah oui.
Mais toujours est-il que ce qui arrive aussi, c'est que ça, c'est, mon Dieu, ça arrive comme par hasard en même temps que le lancement du fameux plan stratégique de développement durable de la ville de Montréal, qui devrait être déposé en théorie cette semaine, donc au milieu de la semaine. Et plusieurs de ces projets-là, de pistes cyclables, de parcs de vélos, des trucs comme ça, sont inclus dans cette stratégie-là. Donc là, on est à même de se poser stratégiquement, c'est quoi? Premièrement, est-ce que le plan stratégique va servir à quoi si, dans le fond, les projets sont déjà annoncés à l'avance? Est-ce qu'on est... Dans le fond, ce que ça montre, c'est que la vision d'ensemble, eh bien, c'est assez réducteur. On y va projet par projet, des petites grenailles par petites grenailles pour faire un peu plaisir à tout le monde. Mais au niveau d'une vision d'ensemble, la même chose qu'on reproche à Charest au niveau provincial, puis peut-être encore plus à Martin au niveau du pays, peut-être en train de se répéter au niveau municipal.
Probablement. Le choix des transports collectifs, on va clore le dossier des pistes cyclables. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, sinon on aura peut-être l'occasion de les voir de visu dans nos vrais yeux. Le transport collectif, un choix qu'on devrait mettre de l'avant. Messieurs, vous les deux, vous vouliez me parler de ça, paraît-il?
Ben, tu as juste mentionné, dans le fond, que la semaine passée, ça l'a parlé très fort et les gens ont tenté de s'entendre. Lorsqu'on parle des gens, évidemment, on parle de gros décideurs à Montréal, dont le maire de Montréal, dont le président de la Société de transport de Laval, maire de Vaudreuil-Dorion, blablabla. Et ce sur quoi ils tentaient de s'entendre, c'est la fameuse taxe sur l'essence. Donc, on se souvient qu'Ottawa, qui pige dans nos taxes sur l'essence pour s'en mettre plein les poches et rembourser sa dette. Mais ça, c'est une autre histoire, mais c'est important s'en souvenir, du moins. Ottawa va retourner une partie de cette taxe-là aux provinces. On a eu la première entente cette semaine avec la Colombie-Britannique. Et évidemment, le Québec va en venir à une entente. Et tous ces décideurs-là autour de Montréal ont réussi de peine et de misère à s'entendre pour dire que 25% de cet argent-là qui vient de l'essence devrait être distribué pour les transports collectifs.
Pas que ça va être fait, mais ils sont entendus sur la volonté que 25% soit accordé aux transports collectifs.
Exactement. C'est un premier pas. Écoutez, Québec était probablement prêt à donner jusqu'à 43% selon certaines sources.
C'est gros, c'est-tu moi? J'ai l'impression que c'est gros.
Bien, c'est pas nécessairement gros, parce que la question, c'est une taxe sur l'essence. Donc, c'est les automobiles, on parle des rues. Donc, pour faciliter les rues ou faciliter le transport, si vous voulez, mais on met du transport en commun, justement. Donc, l'idée, c'est qu'une partie de cette taxe-là, si on met pas tout ça dans le transport en commun, par exemple, ça s'en va dans des infrastructures. Entre autres, on parle de système d'égout, on parle de en tout cas,
c'est pas nécessairement redirigé vers le transport. En fond, c'est ça qui est important.
Donc, c'est mi-figue, mi-raisin, encore une fois, comme nouvelle.
Décidément, c'est une tendance lourde en environnement.
Et à Montréal, 7e journée de smog consécutive.
Comme si je ne savais pas, hein? circulation, la 40 congestionnée, le pont Champlain, une bonne heure d'attente, des carrés encore pire.
Qu'est-ce que je fais encore dans mon char, moi?
Vous cherchez encore une bonne raison de relever le défi une tonne.
Les changements climatiques te préoccupent? Fais ta part pour le défi d'une tonne. Apprends à combiner tes courses pour n'avoir à te déplacer qu'une seule fois. Le fait de réduire de 10 % la distance parcourue en automobile te permettra de diminuer considérablement tes émissions de gaz à effet de serre et d'aller moins souvent au poste d'essence. Pour en savoir plus, visite le www.faitapart.net parce que les changements climatiques, ça nous concerne tous.
You can watch TV and watch the media. President Bush doing takeover. Came on tonight for mascara. All my youth, the young up and out. But they'll pay us, the drug dealers. Girls who are magazine covers. Part-time job is at a call center. No career plans, cause you won't go far. Print away change for a high visa. And check your credit on your new Nokia. You can be a follower, but who's your leader? Break that circular, it will kill ya. You can be a follower, but who's your leader? Break that circular, it will kill ya. You lead a healing car, do what you do now. What's really good that could happen to you? Prime Minister to your employer. Ego lovers need more power. The trendsetters make things better. Don't sell out to be product pushers. That's gyro, cashier and baby maker. Try something new cause it ain't over. All poor people from all over. Lottery's got a rollover. You can be a follower but who's your leader? Break that circular, it will kill ya. You can be a follower but who's your leader? It will kill ya. Cherokee Indians, Iraqian Indians, girls and my girls when it comes to the fellas. Them Japanese, Moroccan, Caribbean, African. Life's your life, but who the fuck's your president? You negate my life cause I don't have a side enough.